Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Tu sais, Hugues, que dans le cadre de mon émission Rouleau suivant, on a remis en condition un Pontiac Aztec jaune avec le cooler et la tente.
Nice.
Avec le système Versatrac à quatre roues motrices.
Incroyable.
Qui est le je vais le dire comme ça parce que ça fonctionne, là. C'est le plus pire système de rouage intégral que j'ai essayé de ma vie.
Oui, oui.
T'as le temps de faire un show de boucan avec les roues avant qu'il y ait un peu de puissance qui s'en aille à l'arrière. Et quand ça finit par arriver là, ding, le coup que ça donne ça dans part. Le différentiel, tu te dis, c'est incroyable. Cela étant dit, tu nous parles aujourd'hui du Pontiac Aztec, qui est ton sujet du jour. Et je suis tout oui, mon cher.
Eh bien oui, en fait, la question, c'est comment rater un véhicule? Eh bien, le Pontiac Aztec, c'est vraiment un cas d'école. C'est pas le résultat juste d'une seule cause, mais vraiment d'une culture d'entreprise guidée par l'aveuglement et d'une succession de mauvaises décisions.
Ouais. Oh ouais. Mais le développement de l'Aztec a quand même commencé dans une ère où on savait que les VUS s'en venaient de plus en plus populaires, là. Fait qu'il y avait, quand même une envie de se diriger là, là.
Oui, ça partait bien parce que au milieu des années 90, le marché des VUS est en pleine expansion.
Pontiac n'avait, corrige-moi si je me trompe, mais n'avait jamais vendu de VUS jusque-là.
Non.
C'était vraiment le premier.
Ouais.
Alors GMC, Chevrolet en avait eu avec les Blazers,
absolument.
Bon, mais chez Pontiac, ça n'avait pas existé.
C'est ça.
Okay.
Et en fait, on commence à voir apparaître des modèles construits sur des châssis monocoques comme le RAV4, le CRV ou le Forester un petit peu plus tard.
Mm-hmm.
Mais l'essentiel de l'offre repose encore sur des châssis séparés. Un camion, c'est un camion.
Un Blazer, un Jimny, par exemple.
Voilà, et on va en reparler justement. Et au studio Advanced Concept Center à Thousand Oaks, en Californie, les designers étudient des véhicules polyvalents destinés au plein air.
Ouais.
Son directeur, Tom Peters, demande à son équipe de créer un véhicule issu, alors ça c'est intéressant, du mélange d'une Camaro et d'un Blazer. C'est spécial.
Tu parlais tantôt d'enfumer du bon.
Ouais, c'est pas mal non plus.
Ouais.
Et le projet initial est baptisé Bearclaw, griffe d'ours, et repose sur un châssis, justement, comme tu en parlais, d'un châssis de série S, comme le Chevrolet Blazer. On peut trouver un des premiers dessins réalisés par Bridget O'Kane, et on voit un véhicule aux lignes acérées, avec un toit relativement bas et une garde au sol plutôt haute.
OK.
Et ça,
c'est logique.
Voilà, et ça a plutôt de la gueule.
Bon, mais qu'est-ce qui fait que le projet va finalement aboutir, va aller de l'avant?
Eh bien, en fait, à ce moment-là, GM n'est plus le leader incontesté du marché nord-américain et a besoin de redorer son image. Son PDG, Rick Wagoner, a déclaré que 40% des nouveaux modèles de GM devaient être innovants. Sans que personne ne sache ce que ça veut dire.
Ouais, c'est ça.
Et voilà. Et le projet Bearclaw arrive à ce moment-là et semble être un bon candidat. Et donc, ça va aller de l'avant. Mais il faut savoir qu'à la fin des années 90, le développement des nouveaux véhicules chez GM, c'est un cercle complet. On est dans les pires années du brand management.
Ouais.
Le marketing d'un véhicule est au moins aussi important que le véhicule en lui-même, un peu comme des paquets de lessive.
Ouais, ouais. Et on a une multiplication de marques là, encore. Là. On a énormément de marques sur le marché. Ce qu'on ne sait plus quoi faire avec. Saturn ne va pas bien. On a encore Géo sous le giron.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Et les nouveaux modèles doivent remplir des longues listes de critères arbitraires dont finalement peu sont au bénéfice du client. Et dans tout ça, les designers, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils sont là pour donner une peau à l'auto et c'est tout. Mais le problème, c'est que on est chez General Motors, on n'est pas chez Procter & Gamble.
Oh, ouais, c'est ça. Évidemment, il y a une succession de mauvaises décisions qui ont été prises, mais je pense que la première mauvaise décision, c'est d'aller chercher la structure d'une fourgonnette qu'on vendait
exactement.
Depuis déjà quelques années. Là. Essentiellement, un Pontiac Aztec, c'est la même chose qu'une Pontiac Montana.
C'est ça. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est que pour le...
Slash Chevrolet Venture.
Voilà.
Slash Buick. Ils avaient des modèles Terraza.
Oui.
Saturn Relay.
Ouais.
Bref, tu sais, variations sur un même thème.
Exactement. Parce qu'en fait, pour que le projet soit rentable, il faut utiliser une plateforme existante. Et c'est pour ça qu'ils décident d'utiliser la plateforme des mini-fourgonnettes, baptisée GMT200,
ouais.
À la place du châssis de séparé des Blazer série S. Et là, ça a une conséquence de modifier totalement les proportions du véhicule.
Ben oui.
La garde au sol est plus basse, la ceinture de caisse et le toit sont rehaussés, les arches de roue sont plus petites et le tableau de bord est poussé vers l'avant. Donc là, les lignes de Berclau qui avaient de l'allure au départ ne rentrent plus du tout dans ce nouveau module. Mais c'est pas grave, le développement continue et le projet avance à marche forcée. Le responsable du développement du produit était Don Ackworth,
okay.
Un type à l'ancienne qui gérait son équipe par la terreur. Et Bob Lutz raconte dans un article, effectivement, qu'il a écrit pour Rod and Track que Don Ackworth aurait déclaré « Nous avons tous décidé que l'Aztec serait un gagnant. Il va étonner le monde. Je ne veux aucun commentaire négatif sur ce véhicule. Aucun. Quiconque a de mauvaises opinions à son sujet, je le veux hors de l'équipe. » Donc là, ça met un petit peu l'ambiance.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, ça continue. Parce qu'il y a des tests cliniques qui sont faits avec le véhicule. Et là, c'est une catastrophe. À plusieurs reprises, le véhicule finit bon dernier dans tous les tests cliniques. Mais chez GM, on y croit quand même. On ignore l'avis de la clientèle. Et puis, on continue parce que le projet clique justement tous les critères internes qu'on avait décrétés. Et donc, ça va. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y connaît le public, hein?
Effectivement, mais on est en même temps un peu avant-gardiste dans la formule qu'on présente parce que à cette époque-là, les constructeurs américains, comme tu l'as dit, ont encore des VUS traditionnels. Même les Japonais, tu regardes un Pathfinder, un Forerunner, c'est très traditionnel comme approche. Alors là, d'arriver avec un véhicule monocoque qui va offrir un confort ou du moins une conduite qui n'a rien à voir avec le VUS traditionnel qu'on connaît, c'est audacieux. Mais écoute, faut parler du dévoilement officiel du véhicule quand ça a été présenté à Détroit. J'y étais, j'ai un souvenir très clair de ça. T'entendais les mouches voler dans le Cobo Center à Détroit.
Oui.
C'est incroyable,
oui, oui,
ça.
Oui, 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 j'ai aucun doute. En fait, le dévoilement, il s'est fait en deux fois.
Ben, il y a eu le concept.
Il y a eu le concept en janvier 99.
Ouais.
Là, l'accueil est un peu mitigé. On voit le potentiel du véhicule, mais les lignes ne font pas l'unanimité. Mais en fait, le concept n'est pas si mal. L'année d'après, janvier 2000, comme tu le dis, tu y étais. Et là, Pontiac présente la version finale. Et comme tu le dis, c'est le choc. Personne ne comprend rien. On ne retrouve pas les proportions du concept présenté un an avant. Le plastique est omniprésent, la calandre est abarabiscotée. On a l'impression que le haut n'a pas été dessiné en même temps que le bas et que l'avant n'a pas été dessiné en même temps que l'arrière.
Ou par la même équipe.
Exactement. Ouais. Et en fait, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oui, oui. Ah, c'est vraiment... Et je me souviens, bon, le véhicule est sur la plateforme. Il tourne sur une plateforme 360 degrés. Le type est habillé un peu plein air avec des bottes, des salopettes
trois quarts. Je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube.
Ah ben oui, il y a des vidéos. C'est hallucinant. Et là, on te montre les fonctionnalités avec le cooler, avec la tente, avec à quel point c'est polyvalent. Mmh. Et tu peux faire du tailgating avec
ce
véhicule. C'est incroyable.
C'est exactement ça.
Parce qu'il y a quand même plein de bonnes idées.
Ben oui.
Pour moi, là, l'Aztec, c'est un peu comme la Dodge Caliber qui a été lancée plusieurs années après.
Oui.
C'est un paquet de bonnes idées mal exécutées.
Exactement.
C'est littéralement ça.
Parce que justement, l'Aztec propose quelques aspects originaux, pardon, innovants pour rester dans le langage de GM.
Faut être précis.
Donc, il y a une console centrale qui est une glacière amovible. Il y a des sacs fourre-tout placés dans les portes avant. La banquette arrière peut être enlevée, qui donne quand même un gros volume de chargement. On peut même installer des panneaux de contreplaqué. Mais alors, dans le coffre, là, c'est fabuleux. Le hayon s'ouvre en deux parties. On peut s'asseoir sur la partie du bas et il y a des portes gobelets intégrées, donc on peut chiller tranquillement. Système audio, j'y venais. Le système audio possède des commandes supplémentaires dans le coffre pour faire le party. Il y a un plateau coulissant optionnel qui permet de charger jusqu'à 180 kg sans effort.
Le véhicule qu'on a restauré l'avait avec des plateaux qui se déplient, à l'intérieur desquels tu as d'autres espaces de rangement. Tu sais, il y avait plein de bonnes
idées.
C'est
ça, exactement. Ce plateau-là, juste en lui-même déjà, c'était super.
Ouais.
Et puis effectivement, comme tu l'as mentionné, il y avait l'ensemble camping optionnel avec une tente qu'on installe sur le hayon arrière une fois ouvert et un sac de couchage gonflable sur mesure. Mais évidemment, comme tu l'as dit, bonnes idées mal exécutées dans la plus pure tradition de GM. c'est infernal. Les plastiques intérieurs sont indigents.
Ben en fait, les comptables sont arrivés ont fait, OK, on coupe dans qualité, bien que là, ça n'avait pas de
Le V6 est relativement puissant. Il fait 185 chevaux, mais il manque cruellement de raffinement, comme la boîte de vitesse. Le rouage intégral, tu l'as dit, n'est pas performant. C'est ce qu'on appelle en anglais un two-lane drive. Hein, parce que vraiment, et lui, effectivement, a la réputation d'être un des pires.
Ouais.
Et... en fait, on se dit, mais en plus, cette transmission intégrale va être offerte plus tard. Donc,
oui,
elle va être lancée plus tard. Donc, pour qui a un véhicule de plein air, c'est pas terrible. Et puis, la tenue de route, c'est celle d'une mini fourgonnette. La capacité hors route sont pas géniales.
Bref, ça se conduit littéralement comme la fourgonnette Montana. Là.
Mais finalement, on est quand même rendu au produit final assez loin des intentions initiales.
Oui, c'est ça. Et je me souviens que la première année, les chiffres de vente ont été catastrophiques.
Oh là là.
Ils n'ont pas vendu ce qu'ils voulaient vendre, mais ils ont quand même persisté. C'est-à-dire que ils ont, au fil des années, tenté de raffiner le produit pour aller finalement chercher la clientèle qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir en corrigeant certains éléments qui avaient été critiqués initialement.
Exactement. En fait, au lancement, Pontiac estime vendre 75 000 véhicules par année aux États-Unis. Super campagne de publicité, mais l'accueil est glacial. Déjà, personne n'aime vraiment l'esthétique. En plus, il est cher. Il est relativement cher. Et il n'est offert au Canada qu'en version GT à 33 845 $. Le démarrage est affreux. C'est la panique chez GM. Ils annoncent un restylage 6 mois après le lancement d'un véhicule, ce qui pratiquement jamais arrivé. Et puis, des campagnes de financement de cash sur le capot.
Ouais, ouais.
Et tout de suite, l'année d'après, il n'y a plus de cladding gris sur les côtés.
Le véhicule est monotone.
On revient à du plastique couleur carrosserie. Il y a un petit aileron qui est ajouté. Au Canada, ils essayent de rattraper le coup en introduisant une version d'entrée de gamme. Et après, il n'y aura que très, très, très peu d'évolution jusqu'à la fin du véhicule en 2005. Et au total, Pontiac n'aura écoulé qu'un peu moins de 120 000 exemplaires aux États-Unis en 5 ans. On est loin des 75 000 par année.
Et c'est intéressant parce que ce produit-là a été lancé en même temps qu'un véhicule clone qui était le Buick... Rendez-vous, pardon. Et honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé qu'un Rendez-vous, c'était aussi laid qu'un Aztec dans ses proportions.
Pas forcément, non.
Les lignes avant étaient peut-être un peu plus fluides, mais je veux dire, les proportions étaient un peu disgracieuses. Et ça a connu du succès. Comme quoi...
Vite de même, dans mon souvenir, il s'est vendu 3 fois plus.
Oui, c'est ça. Puis c'était plus cher.
Et il était plus cher, mais il avait l'air moins bizarre. Il faisait... Je sais pas. Et puis la finition intérieure était quand même un peu meilleure aussi.
Elle était pas meilleure, elle était moins pire.
Excuse-moi.
Utilise des bons termes.
Pardon.
Mais évidemment que l'Aztec, comme tu l'as dit tantôt, c'est un véhicule, on en parle 25 ans plus tard, parce que c'est un véhicule qui a fait école, dont on parle encore aujourd'hui, qui coche toutes les cases des erreurs qu'on peut faire en recherche, développement, marketing. C'est un fiasco de A à Z. Et pourtant, aujourd'hui, un Aztec, c'est une drôle de curiosité. On aime ça en parler parce que, justement, mais à quoi ils ont pensé? Quand tu vois ça 25 ans plus tard, tu te dis à quoi ils ont pensé? Moi, j'ai restauré un véhicule comme celui-là à rouleau suivant parce que, justement, tout le monde m'en parlait. Il était jaune. Tu sais, il y avait tout ce que tu trouvais de plus laid sur un Aztec, là. Littéralement. Là. Puis c'était le modèle GT le plus équipé avec les mémoires de siège de système Moonsoon.
Donc là, il commençait à valoir un sérieux paquet d'argent, là.
Pas à valoir, à coûter.
Oui.
Oui, parce que ça valait pas grand-chose. Bon, morale de l'histoire.
La morale de l'histoire, quand on pense à GM, c'est d'éviter de pratiquer l'autosuggestion et de croire à la réussite de son projet coûte que coûte, puis d'écouter un petit peu sa clientèle cible. Le designer en chef du véhicule, Tom Peters, a déclaré « Il faut rester proche de sa vision, c'est fondamental. Si je devais refaire l'Aztec, je garderais la plateforme séparée et les proportions et les capacités qui vont avec. » Heureusement, Tom Peters ne sera pas reconnu que pour ça, puisqu'il a été quand même impliqué dans le design des Corvettes C6, C7 et C8.
Ouais.
Et il y a un petit épilogue positif à toute cette bérésina. Grâce à ça, GM a embauché Bob Lutz, qui est un ancien de chez Ford, chez Chrysler. C'est la conséquence directe. À cause de l'échec de l'Aztec, Rick Wagoner est allé voir Bob Lutz et lui a dit « Ok, est-ce que tu peux nous aider ? Et il y a une petite anecdote qui résume bien la confusion chez GM à l'époque.
Ouais.
En arrivant en poste, Lutz a découvert que Buick était sur le point de commercialiser une voiture destinée aux personnes âgées où tous les boutons physiques avaient été remplacés par des commandes vocales. Il n'y avait plus de boutons physiques à l'intérieur.
Et là, on est en 2004-5.
Même pas 2001-2.
OK.
Et quand on connaît la fiabilité des commandes vocales à l'époque, on se dit que là, il y avait un autre désastre potentiel qui s'en venait. Heureusement, Lutz a arrêté le programme immédiatement.
Que même la personne de OnStar comprenait pas ce que tu
Exactement.
Dis.
Et au moins, le programme a été arrêté à temps. Bah, c'était déjà ça de gagné.
C'était réglé. Alors, merci Hugues pour cette chronique et très, très hâte de revoir un Aztec pour le regarder sur un autre œil.